Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 6h46, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Vous discutez aujourd'hui avec Franck Godichaud de l'université Grenoble 3.
Oui, c'est ça. Bonjour Franck Godichaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Effectivement, maître de conférence en politique, civilisation sud-américaine à l'université de Grenoble 3 et auteur dernièrement du Chili actuel, gouverner et résister dans une société néolibérale, c'était chez L'Harmattan. Alors, Sebastián Piñera dit le Berlusconi chilien contre Alejandro Guillier du Parti Socialiste Chilien. Ce sera l'affiche de ce second tour de la présidentielle après le décompte quasi final, hein, 99% des bulletins lors du premier tour hier, donc deuxième tour probablement le 17 décembre, plus serré qu'on ne le pensait puisqu'aucun des 8 candidats n'obtient la majorité absolue. Donc c'est 37% pour l'ancien libéral Sebastián Piñera, 23% pour Alejandro Guillier, et puis une élection qui marque l'entrée d'un nouveau mouvement qu'on pourrait dire disruptif à gauche, le Frente Amplio, représenté par la journaliste Beatriz Sánchez. C'est sans doute elle qui fera la différence. Alors, je le disais, ce résultat est une surprise pour qui prédisait la fin d'un cycle des gauches. C'est aussi une surprise parce que ce ne sera pas forcément le retour du libéralisme au Chili, marqué par la dégradation dernièrement économique, des scandales politiques pour Michel Bachelet. Donc, un jeu plus ouvert entre les jours meilleurs et puis la continuité. Qu'est-ce que nous promet cette campagne? En tout cas, peut-être, c'est une surprise d'abord du point de vue de la participation avec des électeurs chiliens moins désintéressés qu'on ne le disait, Franck Godichaud. On n'a pas ces chiffres de la participation encore.
Oui, tout à fait. En tout cas, c'était un thème tout à fait important, voir combien d'électeurs se sont mobilisés, alors qu'au Chili, on s'attendait à peut-être 60% d'abstention. Il semble qu'on soit nettement en dessous. Et en même temps, vous l'avez dit, la vraie surprise, c'est le résultat de Beatriz Sánchez, donc qui arrive en troisième position, mais très haut, à plus de 20%.
Alors, on va reparler de ce Frente Amplio, de ce qu'il représente. Peut-être un mot sur le score de Sebastián Piñera. Là aussi, ça me paraissait un score surprenant. On a vu sa lente ascension, donc ancien président Sebastián Piñera, dans les sondages au cours de l'année, passé de 27% jusqu'à presque 46%, comme on le donnait ces derniers jours. Aujourd'hui, on voit qu'il ne fait que 37%. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce score?
Il y a un vrai tassement donc de l'ancien président et donc entrepreneur multimillionnaire. Il semble d'une part que c'est à gauche qu'il y a eu une grosse mobilisation qui n'était pas prévue, alors que l'électorat plus traditionnel de Piñera, lui, s'est mobilisé, mais pas aussi massivement. Et donc, il faudra analyser plus en détail hein, sur en voyant les territoires du vote. Mais il semble que c'est surtout la baisse de l'abstention et donc la mobilisation de secteurs qui penche à gauche, qui a changé le panorama de ce premier tour.
Alors, on va voir les possibilités du deuxième tour ou de coalition au Parlement. En tout cas, ce que vous dites, c'est que ce qu'on avait prédit comme, ou ce qu'on avait qualifié même d'échec électoral ou échec populaire pour Michel Bachelet à la fin de son mandat, je crois qu'il y avait des scores comme 23% de popularité, n'est pas l'échec de la gauche qui pourtant se présentait très éclaté à ces élections. Il y avait 5 partis tout de même.
Oui, c'est vrai. Alors, quand même, le candidat, hein, le dauphin de Bachelet, lui, a fait autour de 23%. Donc, d'une certaine manière, sur ce plan-là, il n'y a pas trop de surprises. Mais c'est vrai que les sondages annonçaient des chiffres qui sont bien différents de ce premier tour. Et vraiment, la grosse surprise, c'est donc le Front Ample à plus de 20%, alors qu'ils étaient crédités hein, la dernière semaine autour de 8%. Donc là, c'est vraiment un écart considérable et qui va rebattre les cartes non seulement pour le deuxième tour, puisque donc les négociations, évidemment, sont déjà en cours entre Guillier et Sánchez, mais aussi pour le Parlement, parce que ça pourrait signifier peut-être une vague, disons, du Front Ample qui rentrerait au Parlement, et ça, ce serait vraiment un petit tremblement de terre pour le Chili actuel.
Le Parlement pour lequel il y a 155 sièges, je crois. Alors, ce fameux Front Ample, il a été créé au début de l'année, en janvier, dirigé donc par Beatriz Sánchez, qui est une ex-journaliste présentatrice plutôt connue. qu'est-ce que c'est que ce mouvement qu'on dit être un front de gauche, en fait? Ça ressemble vraiment au front de gauche français?
Ben disons que oui, on pourrait faire des parallèles, ou peut-être avec aussi Podemos, un Podemos et la chilienne. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il naît en partie de l'impulsion de 2011 et des grandes mobilisations étudiantes qui réclamaient donc un système éducatif gratuit. Certains des dirigeants et de ceux qui ont formé ce front ample, ce sont notamment les deux députés étudiants qui sont au Parlement depuis le dernier mandat. Donc c'est vraiment une coalition de plusieurs petites organisations, en grande partie issues du mouvement étudiant, pas seulement, et c'est donc, comme vous l'avez dit, une organisation très très jeune, donc qui dispute les élections nationales alors qu'elle est née il y a seulement quelques mois. Donc ça montre aussi un désir de changement et cette crise de légitimité qu'il y avait envers les partis traditionnels dans la population.
Et alors précisément, cette question de la légitimité, elle est intéressante à double titre, parce que il y avait eu une très très forte adhésion à Michelle Bachelet lors de sa première élection. Elle avait eu 62% des voix, précisément parce qu'elle s'était appuyée sur des mobilisations sociales et qu'elle avait construit son programme de la sorte. Là, on a ce Frente Amplio qui vient des mobilisations étudiantes de 2011, ça veut dire que là-dessus, ils ont réussi à capter ce que Michelle Bachelet a perdu en un sens.
En un sens, c'est ça. On peut aussi le présenter aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que effectivement, Bachelet avait construit son programme en disant « je vais répondre aux aspirations des mobilisations de la société sur l'éducation, notamment sur la réforme de la Constitution ». Et là, il y a quand même une grande déception sur les réformes mises en place, ou pas mises en place d'ailleurs. Et donc, c'est le Front Ample qui est apparu comme, de ce point de vue, plus crédible pour incarner des réformes profondes et donc essayer de répondre à ce mécontentement qui va croissant et maintenant qui s'exprime de plus en plus dans la rue au Chili depuis les années 2006-2007.
Et précisément, parmi ces réformes, il y avait celle de l'université, introduire la gratuité complète à l'université. Je crois qu'elle a annoncé, Michelle Bachelet, au cours de son mandat, que ça ne serait possible qu'en 2020, donc effectivement, encore un lien avec la question étudiante. Là-dessus, qu'est-ce que on va voir quelle tonalité prend la campagne jusqu'en décembre, mais qu'est-ce que pourrait proposer Sébastien de Pignirac, un discours plutôt très large, très consensuel? On sait qu'il est libéral, mais il dit « je veux être le président de l'unité, de la classe moyenne, des enfants et des personnes âgées, des régions et du monde rural ». Finalement, il va quand même poursuivre les réformes de Michelle Bachelet ou proposer complètement autre chose?
Ben là, c'est un peu le doute qu'il y a. Si on lit le programme de Piñera, il n'a pas vraiment prévu d'une poursuite des réformes Bachelet, mais il n'y a pas non plus d'annonce de changement radical, de remise en cause radicale de ce qui avait commencé à être fait. Donc Bachelet, évidemment, a de manière continuelle, essayé d'insister sur le fait que seul Guillet pourrait incarner la continuité des réformes et que Piñera serait la remise en cause. Donc là, il y a une vraie ambiguïté sur Piñera, mais c'est vrai qu'il incarne avant tout une vision de l'entreprise, du néolibéralisme. Il était assez opposé aux réformes qu'a mises en place Bachelet, notamment sur le début de gratuité dans l'éducation, même si à chaque fois, c'est tout à fait des réformes très timides, on pourrait dire à la chilienne, entre guillemets, c'est-à-dire dans le consensus, la réforme des petits pas.
Et en tout cas, on voit que Sébastien Piñera est un candidat qui plaît au milieu financier. J'avais relevé trois articles du Financial Times qui en parlaient en termes élogieux, en disant que c'était le président attendu, et notamment parce qu'il pourrait quand même beaucoup relancer la confiance des investisseurs, la croissance. Ça, c'est un point acquis pour lui, réellement?
Ah oui, c'est clairement, sans aucun doute, c'était le candidat des grandes entreprises et de la finance. Il a d'ailleurs axé son programme là-dessus, sur la reprise économique, alors que la croissance, disons, est assez molle ces dernières années. Et même si il faut dire que Bachelet n'était pas du tout hostile au marché, bien au contraire.
Et croissance à 1,3, le Financial Times dit qu'elle pourrait passer à 2,6 si jamais Piñera était élu. Tout dernier point, donc il y a quand même beaucoup de constantes, je l'ai annoncé en introduction, dans la société chilienne. Vous l'avez rappelé également, avec une société assez conservatrice quand même. Et puis parmi les impératifs chiliens peut-être nouveaux qu'on a vus avec Michelle Bachelet au cours de cette année, c'est l'impératif impératif écologique, puisque c'est au nom de cet engagement écologique que justement un grand projet économique a été annulé au cours de l'année, une mine à 2,5 milliards d'euros, je crois.
Tout à fait, oui, le projet Dominga a finalement été annulé par Michel Bachelet. Ça a signifié la sortie d'ailleurs de deux de ses ministres du gouvernement. Mais c'était aussi une manière pour Bachelet, sur les derniers mois, d'essayer de redorer son blason progressiste avec des mesures qui essayaient de marquer quand même l'agenda et de se différencier notamment de la droite, pour essayer de remobiliser cet électorat. Mais cet électorat, finalement, si on regarde les résultats, qui apparemment s'est mobilisé très largement pour la candidate vraiment qui affichait son orientation à gauche, Béatrice Sánchez. C'est vraiment l'événement du moment, on peut dire, au Chili.
Comme quoi, les mesures progressistes, voire quasiment révolutionnaires, ont la cote au Chili. Donc ce deuxième tour le 17 décembre. Merci en tout cas pour cet éclairage aujourd'hui, Franck Godichaud, maître de conférence en civilisation sud-américaine à Grenoble 3 et auteur de Chili actuel, gouverner et résister dans une société néolibérale.